C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 11 avril et on se trouve au Dôme en direct du Turfu Festival qui vient de démarrer aujourd'hui et qui se tiendra jusqu'à samedi.
C'est donc parti pour 5 jours de rencontres, d'ateliers, de discussions pour questionner l'innovation et contribuer à réinventer la société de demain.
Vous l'aurez compris, aujourd'hui on évoquera ce qu'il se passera lors de cette édition 2023 du Turfu Festival. Et pour en parler, nous serons avec Pauline Ducoulombier, responsable des opérations culturelles au Dôme, et Judith Hérault, étudiante du Master Information, Médiation Scientifique et Technique.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. La longévité est visiblement une spécialité française, puisque nous sommes le pays européen à compter la plus grande proportion de centenaires.
Et oui, selon l'INSEE, la France compte 30 000 centenaires, 21 pour 1000 habitants, un chiffre qui nous permet de devancer au classement l'Espagne et l'Italie. Au niveau mondial, la France n'est pas sur le podium, mais se classe tout de même 5e, devancée notamment par l'Uruguay et par le Japon, qui sans surprise occupent la première place de ce classement.
Mais alors, est-ce que la France finira par détrôner le Japon dans ce domaine ?
Alors c'est difficile à dire, mais ce que les projections nous montrent, c'est que le nombre de centenaires français va très probablement augmenter, et même fortement augmenter. La France s'attend à héberger 76 000 centenaires en 2040, et peut-être même entre 100 000 et 600 000 en 2070. Et à l'inverse, si on se retourne en arrière, le nombre de centenaires était bien plus bas. On estime que leur nombre a été multiplié par 30 depuis la période 1960-1975. Cela fait maintenant plus d'un an que le télescope James Webb a été lancé dans l'espace pour observer des galaxies lointaines, mais pas que. On vient d'obtenir des images très détaillées d'Uranus.
Oui, vous avez sûrement vu ces photos fascinantes prises par James Webb, des images de galaxies, d'étoiles, de nébuleuses à des milliers, voire des millions d'années-lumière de nous. Et pourtant, le télescope s'est tourné récemment vers les planètes de notre système solaire. Uranus est la première à être passée au crible. C'est la 7e planète de notre système, une géante glacée entourée d'anneaux et environ 4 fois plus grosse que la Terre, et surtout une planète très peu connue, très peu visitée par les missions spatiales.
Et qu'est-ce que ces photos nous apprennent sur Uranus ?
Eh bien, ces images viennent surtout confirmer les calculs des scientifiques, comme le nombre d'anneaux d'Uranus. Les scientifiques en ont dénombré 13 en tout et les photos en détaillent 11. Avec un peu de temps, les deux autres anneaux devraient se révéler. Il en va de même pour les lunes d'Uranus, 27 satellites en tout. James Webb en a photographié la moitié. De même, un peu de temps est nécessaire pour obtenir les clichés de tous les astres autour d'Uranus, une planète qui cache encore beaucoup de secrets. Toujours en astronomie, c'est historique. Pour la première fois de son histoire, l'Arabie Saoudite va envoyer une femme dans l'espace.
Et oui, elle s'appelle Rayana Barnawi et avec 3 autres astronautes, elle décollera le 8 mai prochain direction l'ISS. Un décollage hautement symbolique, donc tant on sait à quel point l'Arabie Saoudite est pointée du doigt en matière de droits des femmes, le pays du Golfe cherche donc à améliorer son image sur le plan international.
Mais revenons à Rayana Barnawi, qui est-elle ?
Eh bien, Rayana Barnawi, c'est une chercheuse connue principalement pour ses travaux autour du cancer du sein. Actuellement, elle travaille en tant que technicienne de laboratoire de recherche au King Faisal Specialist Hospital and Research Center de Riyad. Et en mai prochain, donc, en plus d'être la première femme saoudienne à aller dans l'espace, elle et son compatriote Ali Al-Karni, qui fait aussi partie de la mission, seront les deuxième et troisième astronautes saoudiens, tous genres confondus. On continue avec une exposition itinérante qui fait parler d'elle, non pas pour sa qualité historique, mais pour un risque mortel pour les visiteurs.
Oui Simon, c'est une exposition qui passe au Mexique en ce moment, les momies de Guanajuato, des corps quasi intacts déterrés en 1860 qui n'auraient pas été conservés de façon saine. Résultat, des champignons ont proliféré partout sur le corps des momies.
Et ces champignons pourraient être très dangereux.
Oui, les scientifiques de l'INA, l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire du Mexique, prennent l'information très au sérieux. Cela représente évidemment des risques biologiques et les vitrines de l'exposition ne sont peut-être pas hermétiques et cela met les visiteurs en danger. Un événement similaire avait eu lieu dans les années 70 après l'ouverture de la tombe du roi de Pologne Casimir IV. 10 des 12 scientifiques présents sont décédés quelques semaines plus tard. L'INA a donc alerté le public et des identifications sur les momies vont avoir lieu dans les 10 prochains mois. Et on termine avec ce défi un peu fou que se lance un Américain, vivre 100 jours au fond de la mer.
Et oui, notre héros du jour se nomme Joe Dituri, et ce docteur en biomédecine, ancien plongeur de la marine américaine, va s'enfermer dans un petit module et s'immerger au large des côtes de Floride à environ 10 mètres de profondeur. Il vivra ainsi coupé du monde pendant 100 jours, une expérience qu'il réalisera pour la science.
Alors pour la science, d'accord, mais pourquoi concrètement ?
Et bien concrètement, le but c'est de travailler sur les effets que ressent l'organisme lorsqu'il est exposé à une forte pression, et en particulier à long terme, une expérience qui fait écho aux travaux menés dans le civil par Dituri, puisque ce dernier étudie les barotraumatismes qui touchent les plongeurs. Il s'agit des accidents provoqués par les changements brutaux de pression de gaz dans le corps qui peuvent être fatales.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
On est toujours en direct du Turfu Festival, un événement organisé par le Dôme, l'Université de Caen et As You Wish. Pendant une semaine se tiendront des rencontres, des ateliers et des discussions pour questionner l'innovation et contribuer à réinventer la société de demain.
Et pour en parler avec nous, nous sommes avec Pauline Ducolombier. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes responsable des opérations culturelles au Dôme et vous êtes accompagnée de Judith Hérault, étudiante du master information, médiation scientifique et technique. Bonjour.
Bonjour.
Alors je précise qu'avec vos camarades de promo, vous allez animer des ateliers, vos premiers ateliers à l'occasion du Turfu Festival 2023, mais ça on aura l'occasion d'en reparler.
Pauline Ducolombier, je me tourne d'abord vers vous. On vient rapidement de tenter d'expliquer ce qu'est le Turfu Festival, mais plus précisément, c'est quoi en fait le Turfu Festival ?
C'est pas facile à expliquer. Le Turfu Festival, effectivement, c'est une semaine pour comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer le monde de demain, sur plein de thématiques différentes, mais des thématiques qui touchent notre quotidien, qui touchent le territoire, qui touchent peut-être son voisin, sa famille. Donc on va aborder autant de thématiques de sciences humaines que de sciences naturelles. Il y a vraiment plein de thématiques différentes et l'idée c'est de venir aussi rencontrer d'autres personnes, se mélanger à d'autres publics et réfléchir à ce qu'est le monde d'aujourd'hui et ce qu'on va pouvoir en faire demain.
Cette année, c'est la 7e édition. Qu'est-ce qui a un peu lancé le projet au tout début ? Quelle était un peu l'origine du projet ?
L'origine du projet, bien c'est ce qu'on fait nous ici, c'est les sciences participatives, c'est de faire participer la population à des programmes de recherche, les intégrer à des équipes de recherche, les faire rencontrer les chercheurs, comprendre les enjeux scientifiques et puis être là aussi pour apporter leur propre expertise, puisqu'on est tous un peu experts de son quotidien. Donc l'idée c'est vraiment que les publics se mélangent et viennent apporter chacun quelque chose de différent plutôt que des équipes qui restent dans leur propre laboratoire.
Et donc c'est un festival qui va vraiment s'adresser au plus de monde possible, toute tranche d'âge et toute population confondue.
Oui, alors nous on va plutôt s'adresser aux jeunes adultes et aux adultes, on est plutôt à partir de 15 ans, mais on a des formats parfois pour les enfants. Demain on va être autour de la littérature jeunesse et la représentation de la biodiversité dans les livres pour enfants. Mais sinon on va être plutôt sur des formats à partir de 15 ans, parfois 12. L'idée c'est quand même de pouvoir appréhender certaines notions et puis réfléchir ensemble. Mais oui, après il y a une vraie mixité. Quelles que soient les études qu'on a pu faire, quel que soit le métier qu'on exerce, quels que soient ses passe-temps, même sans prérequis particulier, on peut ne pas connaître la thématique, venir, et c'est là où on va apprendre et peut-être imaginer des choses.
Et en quoi est-ce qu'un tel événement remplit les objectifs et les fonctions que se donnent le Dôme et l'Université de Caen ?
Alors, la recherche participative, elle est basée chez nous sur un outil qui s'appelle le Living Lab, c'est-à-dire un laboratoire vivant. Donc on peut avoir des objectifs, mais on peut tout à fait partir complètement ailleurs. C'est ça qui est un peu magique, c'est que c'est vivant. Donc on sait à peu près ce de quoi on va parler, mais l'idée c'est aussi que les participants contribuent à la thématique, contribuent à ce qui va être imaginé, parfois prototypé. Donc on sait d'où on part, on ne sait pas exactement où on arrive, mais l'objectif principal, c'est de permettre à tout le monde d'accéder aux sciences, c'est de permettre à chacun de se rencontrer et de participer aussi au vivre ensemble à travers des formats comme ça.
Et la rencontre, en général, c'est quelque chose qui est moteur pour créer de l'innovation, de l'idée, en se faisant confronter tous ces publics ?
Oui, alors on s'appuie beaucoup sur des outils créatifs. L'idée, c'est aussi de ne pas être dans quelque chose de descendant, mais plutôt de favoriser la création, l'imagination. Donc c'est aussi pour ça qu'on est sur des formats où souvent on a des petites choses aussi à grignoter. Ça favorise l'ambiance de l'atelier. Et puis, en mélangeant les publics et en ayant des outils un petit peu originaux, ça permet de sortir des choses qu'on n'aurait pas imaginé être capable d'imaginer.
Est-ce que cette année, il va y avoir un thème général ou il y a plusieurs thématiques qui vont être abordées ?
Alors nous, de manière générale, on est sur les grandes transitions, qu'elles soient énergétiques, voilà. On est vraiment sur une science au sens large. Ça peut être l'alimentation, ça peut être la santé, ça peut être l'histoire. Il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts et il y a moyen, voilà, de découvrir aussi des choses qu'on n'imaginait pas.
Et du coup, quelles sont les thématiques en particulier qu'on va pouvoir découvrir cette année ?
Eh bien, on est sur quoi ? On va observer les étoiles, on va créer une grénothèque régionale. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aussi travailler sur l'esprit critique. On travaille beaucoup autour du jeu chez nous, de la gamification, le jeu sérieux, le serious game. On va être sur quel type d'autre. L'agriculture est souvent présente aussi dans nos thématiques. On est sur un territoire agricole en Normandie. La littérature, enfin voilà, c'est vraiment très très large.
Alors, il y a eu une pause pendant 2 ans de Turfur Festival. J'imagine que c'est vraiment un plaisir de revoir ce genre de festival revenir pour le grand public.
Oui, alors il y a eu une pause parce qu'on est passé du mois d'octobre au mois d'avril et puis il y a l'université qui est rentrée en production sur le festival. Donc c'est vrai que ça nous a laissé 1 an et demi pour préparer une belle édition. Le décalage aussi, avant on était sur la fête de la science, là le fait de se décaler au printemps, ça a permis aussi à des équipes de recherche qui ne pouvaient pas nous rejoindre pendant la fête de la science là de venir. Donc le résultat, c'est une belle programmation, très éclectique, avec des porteurs de projets qui viennent des 4 coins de la France. Et ça, c'est plutôt chouette.
Et l'arrivée de l'université dans la participation et dans l'organisation du festival, ça change quoi ?
Peut-être d'autres équipes de recherche, plus des équipes de recherche, mais de les ramener sur la recherche participative, qui n'était pas forcément leur format. Ça permet aussi, sur les grands témoins, d'avoir peut-être un panel plus éclectique encore, même si on essaye vraiment d'ouvrir aux journalistes, aux artistes et aux chercheurs. Enfin, on n'a pas de prérequis, encore une fois, là-dessus. L'idée, c'est de vraiment que des gens très divers puissent participer à la recherche participative. Mais voilà, c'est un partenariat qui renforce le festival. Ouais.
Vous l'avez dit, durant ce festival, il y a des gens vraiment très divers qui vont venir. Comment est-ce qu'on crée le contact ? Est-ce que c'était des contacts que vous avez déjà avant, que vous allez renforcer, peut-être des liens que vous allez renforcer ?
Il y a un petit peu des deux. Et puis là, comme vous le disiez, on n'est pas à notre première édition. Donc d'année en année, on a aussi des choses à raconter sur ce qui s'est passé avant, sur qui est déjà venu, sur ce que ça a produit. Donc on sent que petit à petit, ça s'est un petit peu musclé et on y voit un peu plus clair dans ce qui peut être fait dans ce genre de festival. Donc il y a des contacts qu'on avait avant, il y a des contacts qui sont nouveaux. Mais là, on sent quand même un regard un peu plus important au niveau national sur ce qu'on fait parce que ça porte ses fruits. Et qu'il y a quelque chose quand même de très intéressant qui se passe. Ouais.
Vous évoquiez tout à l'heure le fait que chaque année on traitait toutes les grandes thématiques un peu scientifiques, mais est-ce qu'il y a quand même des nouveautés qu'on va retrouver en 2023 par rapport aux années précédentes ?
Alors des nouveautés, il y a des thématiques qui rentrent, parce que nous à l'année on fait de la recherche participative, donc il y a des programmes qui n'étaient pas là l'an passé qui sont là, comme sur la montée des eaux ou sur la sobriété. Donc ça dépend des programmes qui arrivent au fur et à mesure de l'année. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est des choses qui étaient déjà là et qui reviennent parce qu'on a évolué d'un stade en fait. Sur le recyclage du plastique, en fait c'est un travail qu'on a depuis même le dernier Turfu, on avait créé un broyeur à plastique puisqu'on essayait de voir ce qu'on pouvait faire avec le recyclage du plastique. Et ceux qui viennent participer cette année vont voir que ça y est, on a passé un stade au-dessus, puisque maintenant on sait en faire un nouveau matériau. Maintenant on en est à quels objets on peut faire sur ce plastique recyclé. Donc d'une édition à l'autre, on peut capitaliser sur ce qui a été imaginé avec les participants et voir l'évolution.
Parce que ce qui était vu les premières années, du coup, ça n'avait peut-être. Est-ce que ça avait genre rien à voir avec ce qui est vu aujourd'hui, ou est-ce que quand même on retrouve des liens ?
Ça peut être le chapitre 1. Après, on peut tout à fait venir sur le chapitre 2 sans avoir fait le 1. Donc voilà, selon le niveau d'acculturation où on en était, on peut apprendre des nouvelles choses, ou on peut, grâce aux participants aussi qui étaient là avant, transmettre ce qui a déjà été fait et rattraper ce qui s'est vu avant.
Il y a plusieurs personnalités publiques qui vont participer à ce Turfu Festival. Je pense à Kian Kojandi ou à Raphaël Yem. Comment est-ce que vous les avez choisis et pourquoi ?
Alors, comme je vous disais, on aime bien l'éclectisme, on aime bien ouvrir les portes et faire participer des gens très divers. Après, on essaye de trouver dans leur travail des ponts avec ce qu'on fait, ou en tout cas un goût pour l'innovation, un goût pour les sciences ou la technique. Et puis aussi sur le participatif et le vivre ensemble, et le fait que voilà, mieux on se connaît et mieux on appréhende le monde d'aujourd'hui, mieux on vivra ensemble demain. Et là, sur ces deux artistes, on est là-dessus. Raphaël, en plus, il vient de chez nous. Il est normand, et puis il a toujours travaillé à faire participer un maximum de gens, à ce que la culture aille dans les quartiers, à ce que ce soit vraiment partagé. Kian, dans son travail, il a toujours été assez à la pointe de l'innovation et de la technologie. L'idée, c'est de mélanger un petit peu tout ça avec son travail artistique. Donc c'est un peu là-dessus qu'on est allé les chercher, et puis ils nous font l'amitié de nous rejoindre.
Et la pop culture, au sens large, c'est un bon pont pour relier le monde scientifique, le monde de la recherche et le grand public.
Bah nous, c'est ce qu'on pense ici. C'est vrai que chaque atelier, on essaye un petit peu de les pimper avec de la pop culture parce que voilà, vous le verrez ce soir à la soirée Métal Hurlant, mais tout ce qui est SF, tout ce qui est voilà, ça a été c'est de la science qu'on a un peu poussé. Enfin, c'est le Turfu Festival, grosso modo. Hein, c'est on se projette en 2050. Alors à l'époque, en 2050, c'était très loin. Maintenant, ça se rapproche. Donc oui, partir sur l'imaginaire pour appréhender des notions de science, ça nous semble intéressant.
Juliette Hérault, je vous voyais acquiescer.
Oui, tout à fait, parce que on parle de Turfu Festival, que c'est un festival de sciences participatives. Et en fait, la science participative, on passe par ce qu'on appelle la médiation scientifique, ce qui est le but de mon master. Et la médiation scientifique, selon moi, en fait, pour qu'il y ait médiation et explication, il faut qu'il y ait vulgarisation, et ça peut passer en fait par la pop culture. C'est parce qu'ils ont vu telle référence qu'on peut expliquer cette référence par d'autres exemples et amener ça peut être fait dans tous les domaines scientifiques possibles et imaginables.
Ça permet d'avoir peut-être un autre discours que des scientifiques vraiment très bruts qui restent un peu parfois dans leur labo, là d'avoir des personnes publiques.
Ah, tout à fait, mais même on n'exclut pas le scientifique dans ce cadre-là, au contraire, on l'amène en fait. C'est que le médiateur, il est au centre de ça, et c'est le pont, on va dire, là où la pop culture, pour faire le pont en termes d'explication, enfin, le médiateur va être aussi là en amenant cette pop culture, le scientifique à expliquer son domaine scientifique au public, aux citoyens.
D'autant qu'en plus, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'était peut-être le cas aussi avant, mais on a quand même l'impression que les scientifiques au sens large arrivent plus facilement à mobiliser ces références de pop culture dans leurs recherches, ou même des fois sont pour beaucoup des fans de pop culture, et du coup on fait ce point-là.
Ah, tout à fait, hein, oui, la plupart du temps, même les scientifiques sont des grands fans de Star Wars ou Star Trek ou tout ce que vous voulez.
On continue de parler du Turfu Festival avec vous deux, mais avant on va faire une petite pause musicale et on écoute Eyes Ablaze. À tout de suite dans C'est pas faux.
C'était Eye de The Blaze, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux et nous sommes en direct du Dôme à l'occasion du Turfu Festival et nous sommes accompagnés de membres de l'organisation, Pauline Ducoulombier, responsable des opérations culturelles au Dôme et Judith Hérault, étudiante du Master Information, Médiation Scientifique et Technique. Le Turfu Festival, c'est aussi l'occasion d'obtenir des Open Badges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et à quoi ils servent?
Ouais. Alors les Open Badges, c'est un badge numérique, c'est un petit peu comme un badge de scout. Quand on sait faire le feu, ben on a un pins. Là c'est la même chose mais en numérique, c'est-à-dire que c'est certifié par la structure qui vous le délivre et puis ça explique ce que ça reconnaît à l'intérieur. Donc c'est un outil de reconnaissance informelle en fait. L'idée c'est de permettre à des gens de revendiquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aiment, ce à quoi ils ont participé. Donc nous c'est un outil qu'on utilise depuis plusieurs années, peut-être que le Turfu Festival est même le premier festival au monde à badger tous les participants. Donc l'idée c'est que quand vous participez à un atelier, derrière on vous propose un, deux ou trois badges qui reconnaissent la thématique à laquelle vous avez participé, les outils peut-être que vous avez découverts. Ça vous permet derrière de les réutiliser, pourquoi pas sur un CV, dans un entretien, enfin être capable aussi d'expliquer votre parcours à travers des badges.
Et justement, lesquels on va pouvoir obtenir durant cette semaine ?
Bah, lesquels on a dans ton atelier ?
Dans mon atelier sur Histoire de Nature qui va se dérouler cet après-midi et demain matin, ça va être le devoir de mémoire. J'ai testé ou j'ai découvert le devoir de mémoire et j'ai expérimenté Histoire de Nature, voire même contribué si les personnes contribuent à cette science participative proposée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Et est-ce que ça a une valeur aussi symbolique du fait de mettre en avant la médiation scientifique et au-delà du fait que ça peut servir comme une certification, vous évoquiez tout à l'heure l'exemple du CV?
C'est les deux en fait, ça permet aussi de vraiment mettre en avant la médiation scientifique comme un domaine qui est vraiment en pleine expansion, qui doit être, tout comme la médiation culturelle, mis en avant. Parce que quand on parle de médiation, souvent, même moi, avant d'arriver au master, je me disais, mais qu'est-ce que la médiation scientifique, vraiment ? Enfin, parce que je connaissais du fait de mon ancien parcours en écologie, ou du fait des problèmes actuels avec le climat, ce genre de choses, on est beaucoup plus à même, les écologues, à se poser ce genre de questions sur comment vulgariser, comment apporter de l'information, ce genre de choses. Et du coup, en arrivant ici, je me suis dit, mais comment vulgariser, mais pour d'autres domaines scientifiques ? Je suis quand même restée beaucoup sur l'écologie, mais on a aussi travaillé avec des laboratoires en physique, en mathématiques, ce genre de choses. Mais du coup, pour revenir sur la médiation culturelle, quand on parle de médiation, tout le monde pense médiation culturelle, mais la médiation scientifique doit être mise en avant du fait que actuellement, on voit beaucoup une fracture entre le scientifique qui, entre guillemets, sait tout, alors que pas du tout, et les citoyens qui ne savent pas ou alors... peuvent propager par exemple des fake news, ce genre de choses. Enfin, c'est une sorte de réaction en chaîne.
Et donc les badges y participent ?
Ils peuvent y participer, parce que du coup les gens, enfin, dans le sens où le fait de venir, ce serait beaucoup plus symbolique que du coup pratique, mais le côté aussi pratique avec les CV, c'est très important. Enfin...
Ouais, puis c'est revendiquer une participation aussi, un engagement. Quand on vient à un atelier du Turfu, c'est qu'on a envie déjà de comprendre quelque chose, mais on a envie aussi de participer. Donc le badge, il vient reconnaître ça. Et en plus, la particularité qu'on a au Dôme, c'est qu'on ne délivre pas des badges, on vous propose de le demander. Donc à partir du moment où tu demandes ton badge, c'est que tu veux revendiquer que tu as participé et que tu étais là.
Est-ce que les gens ont vraiment conscience que ces Open Badges existent ? Est-ce que quand ils viennent au Dôme, ils savent que ça existe, l'Open Badge ?
Alors quand tu viens au Dôme, tu le sais parce qu'il y a des affiches partout. Enfin, je pense que ça commence à être connu. Après, c'est un outil qui est encore en train d'être testé, d'être amélioré. La région Normandie badge depuis quelques temps maintenant. Donc on a aussi des équivalences de badge région. Et puis c'est aussi un outil qui permet de créer des communautés. C'est-à-dire qu'après, tu vas chercher tel badge et tu vas voir sur une carte toutes les personnes qui ont ce badge-là. Donc c'est un outil pour lequel il faut encore un petit peu d'acculturation, comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche. Et nous, on a le parti pris de se dire, on badge les gens, ou en tout cas on leur propose de demander des badges, et c'est comme ça qu'on va acculturer et comprendre à quoi sert le badge.
J'ai envie qu'on revienne un peu sur la question des ateliers. On évoquait tout à l'heure le fait que le Turfu était destiné à tous les publics. Mais comment est-ce qu'on va appréhender un atelier selon si on s'adresse à des jeunes enfants, des jeunes adultes ou des familles entières ?
Alors ça va être tout le travail des médiateurs et médiatrices. Judith va vous expliquer. Mais c'est aussi pour ça qu'on a des jauges avec des âges limites, parce qu'on ne peut pas faire un grand écart entre un enfant de 5 ans et une personne de 65 ans. C'est compliqué pour le médiateur, et puis on ne va pas parler de la même manière. Après, quand on est dans une jauge de jeunes adultes et adultes, on va parler de la même manière à tout le monde, quelle que soit sa connaissance, quelle que soit d'où on vient. Et c'est le rôle du médiateur de faire en sorte que les informations et que ce qui est dit soient accessibles à tout le monde et puis éventuellement de reprendre. Et l'avantage du collaboratif, du participatif, c'est que chacun peut aussi apporter quelque chose et des fois, juste un participant qui reformule, bah, ça permet à un autre participant de mieux comprendre de quoi on parle.
Et du coup, pour rebondir, c'est tout là, la spécialisation de ce master-là, c'est de se préparer en fait, à savoir parler à ses publics. Et le grand mot, oui, c'est l'adaptation. Parce qu'on peut faire un atelier pour des petits-enfants, qu'on ne peut pas faire forcément pour des adultes, mais on peut reprendre, on va dire, le fond, tout en modifiant la forme. Et en fait, c'est dans ce master-là qu'on voit tous les pans créatifs qui sont à nos portes, en fait, et c'est toute notre imagination. Mais en fait, c'est un gros travail personnel à aller chercher de quoi parler. C'est le chercheur ou alors le fond, c'est un expert, on va le demander, mais plutôt sur la forme, mais c'est à nous de le travailler. Et c'est tout le temps, en fait. C'est un exercice quotidien.
Justement, quelle forme va prendre un peu une médiation envers des enfants et une médiation envers des adultes ou familles ?
Alors, pour le coup, pour les adultes, on a tendance à beaucoup faire participer par la discussion, par la recherche ensemble, par exemple autour de... On peut leur demander une consigne, on leur laisse 5 minutes pour réfléchir et après 15 minutes de restitution où ils discutent entre eux et c'est à ce moment-là que fleurissent en fait les idées. Pour les enfants, ça va être beaucoup plus particulier, enfin beaucoup plus différent pour le coup, parce qu'il faut les accompagner, il faut qu'il y ait d'autres personnes aussi, faut que ce soit un peu plus pédagogue, que on peut les faire amener par le jeu par exemple, mais si par exemple on veut leur amener une information, il faut que le fond soit un peu plus travaillé, parce que faut pas penser que les enfants sont forcément débiles. C'est comme quand on fait un film par exemple pour les enfants. On peut ne pas faire juste un film qui raconte un scénario très basique, très nul, disons. Il y a tout un fond auquel il faut réfléchir. Parce qu'on peut amener vraiment des choses très intéressantes, mais à ce moment-là, c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué. Pour le coup, je suis un peu perdue parce qu'on n'a pas encore travaillé vraiment avec des enfants. On a créé des objets lors de chercheurs-chercheuses qui était à destination de famille, mais du coup il y avait les parents et les enfants, mais on n'a jamais travaillé encore avec des classes, des scolaires.
Certains ateliers ont une dimension qui est plus locale, je pense à celui autour des blocs de béton et sur la montée des eaux. Est-ce que ça permet aussi de concerner plus facilement les participants qui viennent?
Alors oui et non, parce que c'est vrai que un atelier comme ça, il a eu lieu déjà en bord de mer, et c'est vrai que c'est plus facile de mobiliser les habitants qui sont directement concernés par la thématique. D'un autre côté, là à Caen, on est quand même qu'à quelques kilomètres, donc ça devrait pas être un sujet trop compliqué à faire passer. Mais c'est vrai que parfois, le côté local permet de mieux mobiliser. Et d'un autre, on est un lieu où les gens sont aussi habitués à passer la porte sur des thématiques qu'ils ne maîtrisent pas forcément, et puis que ça permet aussi de découvrir et de mieux comprendre ce qui se passe chez nos voisins.
Alors au Dôme, vous formez des étudiants à la médiation scientifique et les animaux des ateliers donc durant le festival. Au-delà de transmettre le goût des sciences, en quoi est-ce que c'est important de transmettre le goût de transmettre?
Alors c'est vrai que nous, notre expertise, c'est sur la médiation scientifique. Donc on a ouvert un master cette année, mais on forme aussi, nous, des doctorants à aller dans les classes, à être capable de présenter leur sujet de thèse, à être capable de faire médiation sur un sujet scientifique, que ce soit à la fête de la science ou dans un lycée. Donc c'est vrai que ça, c'est notre expertise, d'être capable de parler de son sujet de science et de le rendre accessible, sans jargonner, pour s'ouvrir au maximum à différents publics.
Et vous, au sein du master, comment est-ce qu'on vous enseigne cette médiation scientifique ?
Alors, tout ce qui est en termes de médiation scientifique et création d'ateliers, et comment parler avec un public, tout se passe au DOM, et en fait, on travaille... on a ces enseignements par des intervenants du DOM, et il faut savoir que du coup, on est à la fois au DOM, mais aussi à l'université. Et à l'université, par contre, on voit plus tout ce qui est sciences, histoire des sciences, philosophie des sciences, on revoit quelque chose de très théorique et... global. En termes d'atelier, en fait, on travaille vraiment avec les gens des personnes du DOM. Et en fait, on a eu du mal en début d'année à faire le lien, c'est que en fait ça peut être plus tard nos futurs collègues. Et de ce fait, en fait, il y a une certaine proximité qu'on n'a pas dans d'autres masters, par exemple, qui restent très universitaires, très académiques, très stricts. Et voilà.
Et j'imagine en plus que travailler avec voilà, des personnes où vous dites, voilà, c'est peut-être mes futurs collègues, ça permet de vraiment de garder un lien que vous allez peut-être aussi transmettre avec les personnes que vous allez rencontrer durant les ateliers.
Un lien très professionnel aussi, parce que du coup, ce qui nous amène en fait aussi à beaucoup parler avec des personnes extérieures et donc se faire aussi un carnet d'adresses pour plus tard. Si par exemple, on veut travailler au Muséum d'histoire naturelle, ben là, je travaille du coup avec une coordinatrice, elle peut connaître des personnes. Donc, c'est se faire un réseau pour nous. Et c'est vraiment une chance d'avoir ça dans un master. Parce que...
Et du coup, vous avez, donc, je suppose, on vous prépare aussi à la préparation d'ateliers. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser, les premiers qui vont être animés par ces étudiants dans le cadre du Turfu Festival? Est-ce qu'ils vont avoir une forme particulière ou...
Tous sont différents, parce que certains ont des objets, certains n'ont pas d'objets. La plupart du temps, le fond, c'est la science participative, le site sur lequel on veut que les personnes potentielles contribuent ou pas. Mais par exemple, nous on a un atelier cet après-midi, histoire de nature, où ça va se passer essentiellement sur de la discussion, vu qu'on a des adultes, comme on le disait tout à l'heure. Mais par exemple, pour le bac à sable à réalité augmentée, ce sont des doctorants qui ont ramené eux-mêmes ce bac à sable, et en fait l'atelier tourne autour de ça. Je vous invite à y aller, parce que je ne connais pas comment ça va se passer, parce que je me suis inscrite aussi pour voir ce que mes camarades et collègues ont produit. Et après, en termes d'organisation, chacun, on avait trois groupes, parce qu'on est 10 dans ce master, et chacun en fait a travaillé un peu à sa sauce, et voulait, en fonction aussi de ce que voulait la personne, le coordinateur de projet, on travaille aussi avec ce dialogue-là, parce que certains ont des attendus, on avait les nôtres, et donc il faut soit trouver un consensus, ou trouver un petit consentement.
Alors pour revenir au festival, sur la page d'accueil du site, on remarque un édito de présentation du Turfu Festival, sauf que cet édito a été réalisé par ChatGPT. Donc à la suite de cet édito, vous avez rédigé manuellement une critique du texte généré par l'IA. Le but d'un événement comme le Turfu Festival, c'est aussi d'avoir un regard critique sur les nouvelles technologies.
Oui, complètement. Et du coup, on a un terrain de jeu qui est vraiment très intéressant. On lui a confié l'édito du festival, et du coup, qu'est-ce que ça dit ? Ce soir, à la soirée Métal Hurlant, on a des intervenants qui viennent d'arriver là. L'idée, c'est aussi de se dire, voilà, si on avait confié la fiche du Turfu à un robot, qu'est-ce que ça dit ? Et c'est ça qu'on va décortiquer ce soir avec des exemples extrêmement concrets. Et voilà, ça permet d'une de s'acculturer à ce qu'est l'IA, comment elle se nourrit, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça produit de bien, de moins bien, et chacun se fera sa propre idée et repart avec.
Et c'est important aussi justement de rappeler que la technologie, ça fera pas tout, et qu'il faudra réfléchir collectivement à des problématiques. Ça peut être tout simplement écrire un texte, mais aussi des problématiques plus graves comme le changement climatique, par exemple.
Oui, c'est ça. C'est que des ateliers comme ça, ça permet toujours de comprendre déjà la technique, la technologie, les outils. Nous, on est vraiment dans une notion d'éducation populaire, c'est de comprendre ces outils, de les appréhender, de pouvoir les réutiliser ou pas. Et à travers des ateliers comme ça, on va venir critiquer, prendre ce qu'il y a à prendre, rejeter ce qui peut-être est un petit peu limite. Mais voilà, on va essayer à chaque fois de voir comment ces outils apportent quelque chose ou non, et en tout cas de mieux savoir ce qu'on en fait après.
Est-ce que dans le master de médiation scientifique, il y a un peu aussi ce côté critique des nouvelles technologies ? Est-ce que vous abordez ce genre de choses en cours ?
Alors, pas tellement, pour le coup. Enfin, on peut se le poser individuellement, mais je veux dire, ça ne va pas faire le centre d'une des matières ou ce genre de choses. À la limite, on peut en parler individuellement dans le sens où on a à la fois dans ce master beaucoup de pratiques, donc durant le Turfu Festival, durant toutes les activités que font DOM, enfin toutes, certaines, dont on nous laisse la chance de participer ou bien de créer un objet pour cette... par exemple, il y avait chercheurs-chercheuses. Mais on a aussi un écrit, un peu de mémoire, c'est pas un mémoire, mais c'est un écrit réflectif, et je crois que quelqu'un dans la promotion veut parler des fake news, et donc tout ce qui est le côté aussi technologique. Alors je connais pas totalement son plan, mais individuellement, oui, on se pose cette question-là, forcément.
Et du coup, face à ces nouvelles technologies, vous prenez du coup comme alternative, si on peut dire ça comme ça, l'intelligence collective. Mais comment on fait en fait pour créer une intelligence collective ?
Déjà, il faut ouvrir la porte à tout le monde. inviter tout le monde à venir participer et que ces participants-là eux-mêmes ne se mettent pas de frein. Il faut aussi que la population ait envie d'avoir quelque chose à dire ou en tout cas de venir se documenter, comprendre comment les choses fonctionnent. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours peut-être la petite chose à dépasser. Et puis après, une fois que les gens sont réunis, des gens qui se sont jamais rencontrés et qui ne se connaissaient pas un quart d'heure avant, on serait surpris de voir ce que ça produit et les échanges que ça permet et les points de vue qui évoluent, parce que forcément quand on a que son spectre, sa vision des choses, et qu'à côté on a quelqu'un qui nous fait faire un pas de côté parce que lui, sa vision c'est pas la même, son quotidien c'est pas la même, bah d'un coup il y a des choses qui s'ouvrent, quoi. Il y a des solutions, voilà. Donc d'arriver à faire venir les gens, les faire se rencontrer, les faire se parler, et ça se produit après tout seul.
Il y a des exemples comme ça de précédentes années ou même d'ateliers du Dôme en général qui ont abouti à des réflexions profondes que le Dôme a pu réutiliser ou que l'université a pu réutiliser ?
Oui, bah nous en fait, là vous êtes dans un lieu qui prône l'open source, c'est-à-dire que tout ce qui va être imaginé, produit, ça appartient pas à une personne, ça appartient à tout le monde parce qu'on a mis nos cerveaux en commun et puis on a généré ensemble des idées, parfois des prototypes. Donc tout ce qui est fait, imaginé, est documenté. Nous on utilise beaucoup la plateforme Écosciences Normandie, donc vous allez pouvoir retrouver dessus pas mal de projets qui racontent un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que la plupart de nos projets sont en différentes phases où on va d'abord réfléchir ensemble à ce à quoi on veut parler. Après, on va imaginer le monde de demain. Et puis, la troisième phase, souvent, c'est de prototyper ces idées. Et on a plusieurs programmes comme ça, notamment autour de l'hydrogène ou le bien-être animal qui ont été déroulé ici. Et des fois, c'est intéressant de voir comment les gens se projettent dans l'avenir. Il y en a qui vont justement utiliser cette technologie en disant, mais du coup, il faut imaginer quelque chose comme ça, un outil nouveau. Et puis, il y en a d'autres qui vont revenir aux bases et dire, ben non, mais en fait, le problème de l'énergie, c'est qu'il faut surtout moins se déplacer, il faut peut-être moins chauffer. Et voilà, à travers des scénarios qui ont été imaginés collectivement, ça donne la tendance aussi de comment les gens se projettent dans l'avenir.
Alors pour en venir sur cette question de l'IA, même si c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, il y a vraiment un perfectionnement et une démocratisation ces derniers temps. C'est devenu impossible de parler de médiation scientifique sans parler d'intelligence artificielle ?
Je ne sais pas si c'est impossible. Et c'est peut-être justement avec le public qu'on va voir ça. Nous, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir mis un coup de projecteur sur l'IA sur cette édition-là parce que c'est vraiment présent actuellement et que je pense que les gens ont besoin d'avoir une boîte à outils pour décoder tout ça. Nous, on travaille beaucoup sur l'esprit critique aussi, donc c'est des choses qui se relient. Il y a un vrai besoin, il y a une vraie urgence à permettre à chacun d'avoir les outils pour décoder. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la médiation scientifique sans IA? Je pense que oui, et au contraire, nous on est aussi beaucoup sur le low-tech, on essaie aussi de rabaisser nos consommations, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient les techniques, on essaie parfois de faire sans.
C'était pas tellement sans utiliser l'IA, mais plus sans utiliser l'IA comme un support, enfin comme une critique, comme un sujet de critique, je voulais plutôt dire ça comme ça.
Ben, je ne sais pas du coup trop répondre à cette question, certainement, oui et non.
On peut peut-être revenir sur les côtés un peu pratiques de ce Turfu Festival. Où est-ce que ça se déroule et est-ce qu'on a besoin de s'inscrire? À qui est-ce ouvert?
Ouais, alors ça se déroule sur plusieurs sites. Il y a l'université, il y a le Dôme, ça se passe aussi à Rouen. On a des ateliers au pavillon, à l'ESAM, donc il y a différents sites. La plupart des formats sont sur inscription, c'est gratuit pour tous, mais par contre on a besoin de respecter une certaine jauge, donc c'est complet, mais principalement en soirée, et puis le samedi il y a quand même encore pas mal de places. Donc faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Et puis sur le samedi, il y a quelques formats qui nécessitent pas d'inscription, vous pouvez venir en visite libre. Donc voilà, en gros, pour les inscriptions.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Pauline Ducoulombier, vous êtes responsable des opérations culturelles du Dôme, et Judith Hérault, vous êtes étudiante du Master Information, Médiation Scientifique et Technique. Bonne journée et bon festival à toutes les deux.
Merci.
Merci.
Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec l'université qui organise à partir de lundi prochain et jusqu'au 21 avril la semaine du bien-être, 5 jours durant lesquels le SUAPS vous propose différentes activités pour vous détendre en cette période d'approche des examens. Les inscriptions sont gratuites, ouvertes aux personnes non adhérentes du SUAPS et se font sur le site unicamp.fr. Et bien sûr, on n'oublie pas la suite du Turfu Festival avec de nombreuses activités qui vous seront proposées d'ici à samedi. On vient d'avoir l'occasion d'en parler. Et pour retrouver le programme, rendez-vous sur le site turfu-festival.fr.
Et comme à chaque numéro de C'est pas faux, une recommandation documentaire, cette semaine, on vous propose un reportage au cœur de la société russe. Cela fait maintenant plus d'un an que les chars russes ont défilé sur l'Ukraine. Propagande, violence, patriotisme, deux journalistes françaises d'origine russe sont retournées dans leur pays d'enfance pendant 3 semaines pour mieux comprendre les mentalités russes qui s'affrontent. Russie, un peuple qui marche au pas, c'est ce dimanche 16 avril à partir de 20h55 sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.